Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Japon en perspective pour lequel je recevais Martin Nogueira Ramos, maître de conférence à l'École française d'Extrême-Orient, dont il dirige actuellement le centre de recherche de Kyoto. Il est spécialiste d'histoire japonaise et tout particulièrement des chrétiens cachés et des catholiques qui sont au centre de sa thèse de doctorat soutenue en 2014 à l'Université Paris Diderot, et dont il a tiré un ouvrage publié cette année à CNRS Éditions et intitulé « La foi des ancêtres, chrétiens cachés et catholiques dans la société villageoise japonaise du XVIIe au XXe siècle ».
Donc, bonjour Martin et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Grégoire.
Pour commencer simplement, qu'est-ce qu'un chrétien caché ?
Il faut d'abord savoir que le Japon a été évangélisé à partir du XVIe siècle et les chrétiens cachés sont des descendants de ces populations évangélisées donc au XVIe et au début du XVIIe siècle qui ont dû choisir la clandestinité car à partir de 1614, au Japon, le christianisme est interdit. Ce sont donc des gens qui suivent un certain nombre de rites chrétiens tels que le baptême, des prières ou le calendrier liturgique, mais qui, en apparence, officiellement, sont des paroissiens de temples bouddhiques et donc, de l'extérieur, ne sont pas, donc, on ne peut pas distinguer des autres japonais.
Ces chrétiens cachés, donc géographiquement, dans quelle zone est-ce qu'on les trouve plutôt ? Quelle zone, en tout cas, toi, tu as étudié pour tes recherches ?
Alors, mes recherches portent plus particulièrement sur la région de Kyushu, qui est donc la région qui, au XVIe siècle, a été le plus évangélisée le plus en profondeur, dans la partie nord-ouest de l'île, autour donc, de la ville aujourd'hui donc, de Nagasaki. Cependant, il faut savoir qu'il y avait des populations crypto-chrétiennes dans plusieurs régions de l'archipel, hein, donc pas simplement à Kyushu, mais aussi à Honshu, on peut imaginer aussi à Shikoku. Mais celles-ci ont disparu au fil du temps, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc les seules qui sont maintenues sont celles de Kyushu.
Donc elles se sont maintenues pendant environ combien de temps ?
Elles sont maintenues pendant toute la période d'interdiction du christianisme. Alors pas toutes, hein, mais certains villages, donc entre 1614 et 1800, les années 1860. Donc.
D'accord. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit rappel de la manière dont ont été étudiés jusqu'à maintenant les chrétiens cachés ? Un petit rappel historiographique, parce que je sais que l'étude des chrétiens et du catholicisme, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui peut aussi être l'objet de méconceptions et d'incompréhensions. Donc jusqu'à maintenant, si tu as des points plus particuliers à soulever.
Mon travail ne porte pas uniquement sur les chrétiens cachés, mais aussi sur les catholiques. L'historiographie sur le crypto-christianisme est extrêmement limitée, en fait. Elle est très étendue sur le catholicisme, mais assez limitée sur le crypto-christianisme, pour la simple raison que, jusque très récemment, les historiens qui travaillaient sur le catholicisme étaient eux-mêmes essentiellement des catholiques, donc au Japon en particulier, et même aussi en Occident d'une certaine façon. Et donc leur comportement donc de chrétiens cachés, qui en apparence n'étaient pas chrétiens, mais bouddhistes, posait un petit problème en fait pour un certain nombre de chercheurs qui estimaient qu'ils n'étaient pas, dignes d'intérêt pour cela. Ils avaient une préférence pour les catholiques donc du XVIIe siècle, et notamment ceux qui étaient morts en martyrs. Donc il y avait un courant qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus faible, qu'on retrouve dans d'autres médias, mais moins dans la recherche, qui était un courant donc d'historiographie catholique qui était essentiellement tourné soit sur les premières décennies glorieuses entre guillemets de la compagnie de Jésus, donc les jésuites, soit sur donc les martyrs qui égrènent la première moitié du XVIIe siècle. D'un autre côté, il y avait jusqu'au début des années 90 une historiographie japonaise qui était en histoire sociale extrêmement marquée par le marxisme et faut pas généraliser, mais qui n'estimait pas que le fait religieux pouvait être un moteur dans les échanges ou dans les contacts entre paysans et guerriers notamment, et qu'ils étaient que le fait religieux était beaucoup moins important que la question, les questions économiques ou sociales. Donc le sujet était en fait jusqu'aux années 90 assez peu traité par les historiens japonais et le crypto-christianisme encore moins.
Donc, on va peut-être continuer sur les raisons, pour donner un petit peu de contexte.
Oui.
Quels sont les moments de l'interdiction du catholicisme ? Donc très rapidement, c'est principalement une... Enfin, dis-moi si je dis des bêtises, mais c'est principalement des craintes de la part du shogunat de perdre de l'influence sur une région importante, donc autour de Nagasaki, avec tous les échanges qui se jouaient là-bas. Et donc le catholicisme posait, on va dire, un problème pour son propre pouvoir.
Le christianisme commence à se répandre au milieu du XVIe siècle et gagne en puissance dans les années 1560-1570, à un moment où le Japon n'est pas encore unifié. Donc les missionnaires profitent du morcellement politique, notamment de Kyushu, qui est général, mais notamment de Kyushu, pour convertir un certain nombre de seigneurs, des daimyo donc, ces daimyo eux-mêmes convertissent de force, même si au XVIe siècle, je ne sais pas quel sens ça a véritablement, leurs vassaux et les simples sujets comme les paysans. Au moment de l'unification, le catholicisme, alors, qui est accompli par Hideyoshi, Toyotomi Hideyoshi, le catholicisme apparaît comme étant potentiellement une puissance régionale, en fait, qui pourrait mettre à mal la légitimité du nouveau pouvoir. Et ce qui va donner donc lieu à une première interdiction, alors plutôt un édit qui vise à limiter les conversions au catholicisme en 1587, puis sous le nouveau shogunat de Tokugawa en 1614, une interdiction générale. Voilà. Donc ça, c'est la raison, disons, un peu politique. Et après, il y a toujours une facette qu'il ne faut pas oublier dans le catholicisme, c'est les liens avec le Portugal et l'Espagne et ce roi lointain, un peu mythique pour ces gens-là à l'époque, le pape. Bon voilà, donc il y a ces facteurs et aussi un facteur, donc le facteur politique et aussi un facteur religieux ou idéologique. C'est qu'à l'époque, le nouveau système religieux qui se met en place est de plus en plus contrôlé par le pouvoir et les différentes écoles bouddhiques doivent en quelque sorte un peu... amollir leur message religieux, le rendre un peu plus plastique et tolérant. Et le christianisme, avec, donc, qui est une religion exclusive, particulièrement au XVIe siècle et au XVIIe siècle, refuse donc tout compromis avec les autorités. C'est impossible, donc, simplement.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'est pas donc ce qui pourrait de l'extérieur être vu ou vécu comme une attaque envers le catholicisme, c'est tout simplement une politique générale de rapport avec le religieux et avec la capacité de ces sectes bouddhiques ou ainsi de suite de venir potentiellement menacer le pouvoir. Donc,
ouais. Alors, mais c'est pas simplement politique, il y a quand même un petit peu un aspect religieux parce qu'il y a l'aspect exclusif du catholicisme, parce que quand le catholicisme se répand à cette époque, en général, ça s'accompagne de destruction de temples et de sanctuaires. D'accord. Et on peut difficilement... Je ne pense pas que même les daimyo de l'époque ou le shogun aient une vision complètement, extrêmement claire de la distinction du sacré et du profane. Donc c'est assez difficile. Mais il y a des questions, bien sûr, politiques aussi, essentiellement.
Et donc, rapidement, donc si on a affaire à une interdiction complète de la religion, donc interdiction de pratiquer, apostasie obligatoire.
Alors, c'est extrêmement compliqué parce que interdire une religion sur le papier, ça paraît assez facile, mais après, ça touche quand même au fort intérieur. Donc, à part le contrôle des apparences, donc notamment les édifices de culte qui vont être assez rapidement détruits, au début, les autorités ne savent pas très bien comment procéder, en fait. Parce que, et c'est un processus qui va se mettre en place et qui est, dont les gens connaissent en général. Ça intéresse un peu la question, mais par le cinéma, par les romans, connaissent quelques facettes, notamment le piétinement d'une image représentant la Vierge ou le Christ, ou l'inscription dans un temple bouddhique. Alors, mais ce processus va durer 50 ans environ. À partir de 1614, va se terminer à peu près dans les 1660, par le contrôle général de population. Contrôle essentiellement des apparences.
Donc là, on définit à peu près le cadre dans lequel ces individus, cette population, finalement, va se mettre à vivre. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, une foi qui ne disparaît pas nécessairement, mais qui se retrouve, tout simplement, voilà, n'a plus le droit d'apparaître. Donc,
elle est clandestine,
cachée.
Secrète, cachée, voilà.
Il faut revenir sur le terme.
Sur le terme de caché.
Sur le terme caché. Rapidement, cette population, en tout cas sur la région que tu as étudiée, ils sont environ combien ?
Alors, on a toujours des problèmes avec les chiffres, hein, parce que le seul fournisseur de statistiques, ce sont les missionnaires. Et
ils font la politique du chiffre.
Ils annoncent des chiffres. Après, il est difficile de savoir parmi les gens qui ont été baptisés, même si on peut penser que les chiffres qu'ils donnent pour le nombre de baptêmes est peut-être relatif, mais à peu près correct, savoir parmi ces baptisés le nombre qui pratique concrètement, notamment voilà, qui a extrêmement peu de prêtres, et la pratique en général est vraiment tournée vers la communauté, les communautés locales, donc sans messe dominicale, etc. Donc ces pratiques, ce sont des religions extrêmement laïques dans leur fonctionnement. On dit environ 300 000 à l'apogée du catholicisme, donc ça représente environ 3% de population au début du 7e siècle. Et les deux tiers sont à Kyushu.
D'accord.
Donc environ 200 000 personnes à Kyushu. Le plus compliqué, c'est de suivre numériquement ces populations au moment de l'interdiction, parce qu'officiellement, ils commencent à apostasier et il n'y a plus du tout officiellement de catholiques dans la deuxième moitié du 17e siècle. Les autorités arrêtent d'arrêter les catholiques ou crypto-catholiques, je ne sais pas comment il faut les définir à ce moment-là, dans les années 1570-1580.
Et on estime, donc une fois qu'ils sont cachés, est-ce qu'on a une estimation? Alors, ou est-ce que c'est un chiffre impossible à obtenir?
Alors c'est impossible à obtenir pour le 18e siècle, parce qu'il y a, je ne sais pas si on en parlera par la suite, mais les autorités arrêtent complètement d'enquêter sur le crypto-christianisme au 18e siècle. Et les arrestations, les enquêtes reprennent à la fin du XVIIIe siècle et continue jusqu'à l'ouverture du Japon. Ce qu'on sait, c'est que par des chiffres missionnaires, alors cette fois-ci du XIXe siècle, parce que bon, ces populations vont reprendre contact avec des missionnaires au XIXe siècle, on parle de 50 000, environ de 50 000 chrétiens cachés au milieu du XIXe siècle.
D'accord. Donc de 300 000
oui.
À environ une cinquantaine.
50 000, oui. Mais alors, est-ce que c'est la répression? Ça peut être d'autres phénomènes, notamment donc, de mouvements de population ou tout simplement la prédication bouddhique qui avait le temps devant elle, qui a pu...
Ou ceux qui n'ont pas accepté de répondre au sondage aussi.
Oui, voilà, c'est aussi possible. Même le chiffre de 50 000, bon, vous savez, il est assez
rond pour être suspect.
Oui, voilà. On n'est pas... Ce n'est pas des chiffres exacts non plus.
Bien sûr. Donc, ces populations donc, sont principalement ce qu'on appelle à l'époque des hyakusho. Donc, souvent, on a traduit ça de manière erronée par paysans, mais c'est des gens qui avaient... pratiquer la paysannerie, mais pouvait avoir aussi d'autres activités telles que la pêche, du commerce, enfin toutes sortes de choses. Donc, on va dire des gens du commun.
Oui, en fait, on peut traduire même par villageois, en fait. Parce qu'ils y vivent pour la plupart. Donc, alors, il faut savoir, c'est qu'à l'époque, même les pêcheurs, en fait, n'ont pas. Ont d'autres activités. Leur mode de vie est assez précaire et ils sont obligés, donc c'est une économie encore un peu de subsistance, ils ont des terres et ils pêchent. C'est le cas de la majorité, pas l'ensemble, la majorité de ces populations.
Donc on passe clairement, on n'est plus du tout dans l'image du début du christianisme au Japon où ce sont les daimyo qui tiennent le haut de l'affiche d'une certaine manière. Là on est vraiment sur la population normale japonaise.
Alors il peut quand même y avoir des chefs de village, donc pas tous des paysans du plus bas échelon. Hein, parce qu'on souvent dans le passé il y avait un peu cette vision un peu romantique de voir des gens complètement isolés ou quasiment des marginaux. Mais souvent il y a des chefs de village, des gens assez élevés dans la communauté, dans les communautés locales. Pas de daimyo bien sûr, pas de samouraï de haut rang, mais bon quand même des gens du commun. Un peu plus élevé dans la société que d'autres.
Ça m'amène donc à ma question suivante.
Oui.
C'est très bien, c'est-à-dire de quelle manière finalement se structurer justement ces sociétés villageoises?
Ce qu'on en sait, hein, parce que on perd la trace. Alors on a des enquêtes au XVIIe siècle qui nous permettent un peu de voir l'organisation et à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il y a d'autres enquêtes qui nous permettent encore donc d'avoir quelques aperçus hein, sur l'organisation de ces communautés. On a surtout une idée donc, de l'organisation donc, religieuse. On pense, alors, parce que les jésuites eux-mêmes, les jésuites et les autres ordres missionnaires qui étaient présents, les dominicains, franciscains, augustins, avaient donc implanté au niveau local le système des confréries parce qu'ils avaient besoin de relais. Et ils étaient trop peu nombreux pour pouvoir donc gérer au quotidien l'ensemble de la chrétienté. Et on pense qu'il y avait un système hiérarchique assez clair. Alors dans le cas des jésuites, qui était sur trois échelons, et on a des documents qui montrent au XIXe siècle que c'est encore le cas. Par exemple, à Urakami, qui est le plus grand village, c'est même un bourg en fait, crypto-chrétien, de l'époque d'Edo, qui avait environ 5000 habitants, dont 4000 chrétiens cachés. Donc il y avait un chef religieux qui pouvait faire passer ses directives à 4000 chrétiens cachés. Donc ils étaient quand même relativement bien organisés. C'est pas le cas de tous les villages. Certains avaient des organisations plus petites, mais bon, en général, c'était quand même au moins plus d'une centaine de personnes à chaque fois.
Tu parles d'enquête. On peut peut-être toucher à la question des sources, parce que j'imagine qu'on reviendra sur les crypto-chrétiens rapidement. Mais je pense que c'est important d'expliquer sur quoi tu as basé ton travail, en fait. Donc, quelles sont ces enquêtes à quel autre type de document as-tu eu recours afin de mener ton enquête?
Alors, ma thèse et le livre portent sur une période d'environ 250 ans. Donc, selon les périodes, il y a quand même un certain nombre de variations sur le type de sources dont on dispose. Pour le XVIIe siècle, pour dire les choses assez rapidement, il reste des documents missionnaires jusqu'en 1630. On a les rapports essentiellement écrits en portugais, donc les rapports annuels, les lettres. On a des rapports régionaux aussi. Alors, c'est des documents qu'il faut lire avec un peu de précaution parce qu'ils sont extrêmement codés et suivent des formats assez courants qu'il faut savoir un peu décrypter. On a des documents, les premières enquêtes commencent au XVIIe siècle, donc on a des rapports des autorités qui portent en général plutôt sur les structures, au début assez peu sur les croyances. Les guerriers, c'est pas véritablement leur domaine de prédilection.
Quand tu dis structure, c'est il y a un chef
qui,
de village.
Un chef de village qui dispose des images, comment les gens sont organisés, etc. Voilà. Et on a extrêmement peu de documents rédigés par les catholiques au XVIIe siècle, ou les crypto-catholiques. Sauf pour une révolte qui a lieu en 1636-1638, la révolte des Chemaba, dont on reparlera peut-être plus tard, parce que c'est encore un autre sujet. XVIIIe siècle, c'est simple, on n'a pas de source. Parce qu'officiellement, le catholicisme a disparu et les autorités tolèrent, en fait, tacitement ces populations.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas de source ou est-ce que les acteurs eux-mêmes en ont, mais refusent de...
Alors, il y a des enquêtes qui reprennent à la fin du XVIIIe siècle. Je vais peut-être expliquer après pourquoi. Et dans ces enquêtes du XVIIIe siècle, il y a des mentions sur des enquêtes qui ont lieu avant, mais qui ont l'air d'indiquer que ça n'a pas donné lieu, en fait, à des grandes arrestations. Et donc, bon, il y a peut-être eu des sources, des rapports qui ont été faits, mais en tout cas, il n'a pas été jugé nécessaire de les garder. Concernant ces enquêtes qui reprennent à la fin du XVIIIe siècle, il faut savoir que les autorités shogunales, comme donc des fiefs, sont dans une situation sociale et économique assez tendue. Et essayent un petit peu de voir quels sont les éléments qui pourraient porter atteinte à leur autorité dans les villes et dans les villages. Donc, il y a une série d'enquêtes qui portent sur les crypto-chrétiens, mais pas uniquement, sur aussi d'autres villages qui contiennent des populations donc, qui sont jugées comme étant un peu hétérodoxes du point de vue religieux, notamment ce qu'on appelle l'amidisme clandestin, le Kakolé Nembutsu. Et ces enquêtes vont permettre d'avoir un nouvel aperçu donc sur ces populations. Et on se rend compte d'une chose qui est assez intéressante, même un petit peu amusante, c'est que tout le monde veut faire en sorte de ne pas voir de chrétiens. Ça se voit qu'ils sont chrétiens, ils prient Marie et la Vierge, et prient Marie et le Christ, mais les autorités font leur possible pour qu'au final ces gens ne soient pas chrétiens. Dans les papiers.
on sait pourquoi.
Tout simplement parce que ils ne sont pas extrêmement, ils ne sont pas très dangereux. Hein. C'est les gens qui paient les impôts, qui paient l'impôt, qui les villages sont à peu près stables. Il y a quelques tensions apparemment qu'on peut apercevoir ici et là, mais globalement, ils ne posent pas de problème ni au niveau local ni au niveau régional. Et il s'agit simplement de voir si, en fait, comme je le disais, il s'agit de voir s'ils peuvent porter atteinte au pouvoir. Et à partir du moment où ils considèrent que ces populations ne sont pas dangereuses, ils préfèrent dire que, en fait, c'est simplement des paysans aux mœurs étranges que dire que ce sont des paysans chrétiens. Parce que le terme, en fait, avec le temps, à l'inverse, moins il y a de chrétiens officiellement, plus le terme prend une connotation dangereuse, en fait.
Le fait de l'écrire.
Le fait de l'écrire, voilà.
Aurait pu poser problème.
Aurait pu poser problème. On a même des cas de censure. On a des cas de documents où les autorités locales envoient aux autorités donc seigneuriales un rapport et le rapport, avant d'être présenté aux daimyo, sont censurés. Même si le daimyo, en fait, doit être au courant au final, mais il change les termes, etc., pour pas que. Notamment le terme chrétien est toujours banni.
D'accord.
Ça n'apparaît jamais.
Et il y a des sources, donc je vais dire autochtones, c'est pas le terme adapté, mais de ces populations de chrétiens.
Ah non, indirectement. On a des entretiens.
Ils ont rien laissé eux-mêmes.
Non, alors oui, si, ils ont quand même laissé quelques documents, mais on a les entretiens. On a quelques minutes d'entretien, d'interrogatoire. Alors c'est des, faut pas penser que les guerriers retranscrivent mot à mot ce que disent les chrétiens cachés, mais bon, malgré tout, ça reste quand même des sources intéressantes. Et on a quelques sources qu'on a retrouvées en fait postérieurement dans ces villages, mais ce sont essentiellement des recueils de prières, des calendriers liturgiques, et on a un seul cas d'un recueil de mythes qui porte sur le christianisme.
Donc eux ne gardaient, ma question c'est...
Gardaient très peu de choses.
Eux ne gardaient en tout cas aucune liste, pas de recensement on va dire, des questions d'analphabétisme on va dire de base, ou est-ce que c'est vraiment lié en fait à la nécessité de protéger leur identité en tant que chrétien?
Ben en fait, enfin, à l'origine, quand on regarde les rapports du XVIIe siècle, on voit que les directives des autorités portent sur les traces matérielles de la religion. Donc, pour montrer que quelqu'un est chrétien, si vous tombez sur un livre chrétien, c'est déjà une bonne preuve.
C'est une liste.
Une liste de gens avec des noms portugais, parce qu'ils portaient des noms de baptême portugais, c'était quand même assez évident. Ouais. Donc, non, on n'a aucun document sur le fonctionnement même. On a je disais simplement des recueils de prières et des calendriers. Voilà, c'est la seule chose dont on dispose. Ouais. Qui aurait pu constituer une preuve, mais bon.
Je pose la question parce que souvent, les religions, en tout cas, servent aussi à garder des registres des populations.
Oui.
Et ça aurait pu être un des rôles que... mais bon.
En tout cas, ils ont peut-être eu, mais on les a pas. Après, c'est des communautés... les religions gardent des registres à partir du moment où elles ont une organisation centralisée. Ou régional, mais là, comme ce sont des... Alors, ils ont fait des liens, quand même, entre eux, mais ils étaient pas... Il n'y avait pas un pape des chrétiens cachés, il n'y avait pas un évêque ou quelqu'un qui chapeautait l'ensemble de la communauté crypto-chrétienne. Donc, la nécessité d'avoir des registres est moins forte dans ce cadre local.
Très bien. Et donc, les rites?
Oui.
À quoi ressemblait cette... Alors, déjà, est-ce que... Dans quelle mesure est-ce que c'est encore... la religion chrétienne, est-ce que jusqu'à où ça a changé? Enfin, comment est-ce qu'on la définit par rapport à ce que Rome pourrait considérer comme étant la bonne manière de pratiquer, en tout cas à l'époque, et quelles étaient la manière dont ces chrétiens, donc souhaitant masquer leur religion, pratiquer leur rite, continuaient à garder pendant plus de 250 ans cette pratique?
Alors, je le disais un tout petit peu au début de l'entretien, la pratique est essentiellement communautaire. Donc, être chrétien ou bon chrétien caché au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ça signifie essentiellement se réunir pour les fêtes du calendrier liturgique, donc la Nativité, Pâques, pour le dimanche. Et alors, ce que l'on sait d'après donc les enquêtes, ce que l'on sait de ce que faisaient les chrétiens cachés, ils priaient essentiellement. Il n'y avait pas de sermon, même des lectures de. On a des légendes. Est-ce qu'ils lisaient des versions écrites? Je ne sais pas ce qu'ils mentionnent en tout cas. Ils disent essentiellement ce qu'ils font, c'est mettre des objets de culte, donc souvent qui sont hybrides. Ça peut être des statues du Bodhisattva Kanon qui sont des représentations de la Vierge, en tout cas pour ceux qui prient devant. Donc c'est essentiellement une pratique communautaire centrée sur la prière. Après, on a un ensemble de rites tels que le baptême qui était aussi pratiqué 3 jours après la naissance en général. Donc c'est extrêmement simple. Je ne pense pas que... alors ça, on le sait par rapport aux copies que l'on a, parce que c'est des documents extrêmement importants, c'est les copies de documents du XVIIe siècle. Et du XVIIe siècle, certains ont été conservés dans les villages. Et on voit dans ces documents qu'il y a énormément de fautes dans les copies. Et ça laisse penser, en fait, que les textes n'étaient pas lues comme étant des instructions, mais comme des prières. Donc même les doctrines étaient lues, en fait, étaient psalmodiées souvent.
Excuse-moi, c'était en traduit en japonais ?
Oui, en japonais. Oui.
C'était pas en portugais ?
Non, mais énormément de mots portugais dedans, parce que c'était une langue hybride déjà, et les missionnaires avaient choisi d'opter pour le portugais et le latin pour transcrire certains termes, notamment Dieu,
ce baptême, que je veux dire, c'est que des textes qui apparaissent clairement comme un manuel d'explication étaient compris
comme étant des prières.
Malgré le fait que le texte est en japonais, donc on prend
ça. Oui. Oui, mais c'est un japonais quand même bizarre. Hein. C'est un japonais où il y a un mot portugais tous les trois ou quatre mots. Hein. Donc c'est pas facilement intelligible. Et alors déjà au XVIIe siècle, au XVIe siècle, je ne sais pas vraiment ce qu'ils en comprenaient, mais deux siècles plus tard, je pense qu'ils en comprenaient absolument rien. D'ailleurs, on le sait quand les missionnaires reviennent et les premiers contacts portent notamment sur la compréhension de ces témoignages des ancêtres.
Et alors, avant peut-être d'arriver donc à ce moment où les missionnaires redébarquent, qu'est-ce qui faisait finalement le cœur de la foi de ces chrétiens cachés ? Quels étaient les éléments les plus importants ?
Alors, il y a un point qui revient, mais systématiquement du XVIIe siècle au XIXe siècle, c'est le salut. Ça revient dans... Il n'y a pas un document où les chrétiens cachés ou les catholiques, que ce soit au XVIIe ou au XIXe siècle, ne mentionnent pas la question du salut. Notamment, et par l'usage notamment du mot portugais paraíso, qui est paraíso, qui revient de manière systématique. Donc en général, quand on leur demande d'expliquer pourquoi ils pratiquent leur religion, donc lors des enquêtes, ils mentionnent d'abord le salut et après des choses très classiques comme la santé, les bonnes récoltes, des pêches abondantes, ce qui est tout à fait classique pour une pratique religieuse.
Je disais dans tes travaux, il y avait donc des comparaisons entre Dieu et que donc les chrétiens cachés, je ne connais pas vraiment le système des rangs, le Dieu chrétien avait plus de rangs que Bouddha, que par conséquent il était mieux. Est-ce que je ne sais pas si c'est anecdotique, mais est-ce que tu peux ajouter quelque chose là-dessus ?
Et ça, c'est un phénomène qui est assez amusant, mais qu'on retrouve en fait dans la plupart des religions secrètes. Ça se trouve, c'est par exemple dans le crypto-judaïsme au Portugal, en Espagne à la même époque. C'est qu'en apparence, donc ces gens pratiquent la religion de la majorité, mais ils gardent à l'intérieur des foyers, à l'intérieur de la communauté, une grande aversion pour la religion officielle ou les religions officielles. Et ce qui est marquant, c'est chaque fois qu'ils ont l'occasion de s'exprimer sur le bouddhisme, alors là, c'est plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quand vraiment là, ils sortent de la clandestinité, ils transmettent leur aversion, mais vraiment de manière extrêmement forte, et ils disent que c'est quelque chose qui tient de leurs ancêtres. Le fait qu'ils détestent, le bouddhisme, ils détestent les sanctuaires shinto, et une des raisons donc, pour lesquelles... ils pratiquent leur religion, c'est qu'ils estiment simplement que le bouddhisme ne sert à rien. Ils le disent. Hein. Dans certains même, ça n'a aucune utilité et aucun bienfait ne peut venir du bouddhisme. Alors qu'ils pratiquaient en façade le bouddhisme pendant plus de deux siècles.
Est-ce que le bouddhisme était uniquement une façade ou est-ce que...
Ah, c'est, ouais.
Donc, on parle souvent, on peut avoir cette image d'un Japon avec une religion, en tout cas une pratique religieuse extrêmement syncrétique. Mmh. On dit de manière classique, on est shintoïste et on décède bouddhiste.
On se met chrétien aujourd'hui.
Il y a toujours cette image, mais finalement qui est assez trompeuse. Comment tout ça se combine dans la pratique religieuse des chrétiens cachés ?
Il faut distinguer deux choses, c'est la pratique et la conscience de la pratique, ou la conscience de la religion. Pour ces gens-là, pour ces chrétiens cachés, alors ce que l'on en sait aussi, parce que les traces sont extrêmement fragmentaires sur la période de clandestinité, ce qui est certain, c'est que dans leur pratique, ils sont assez proches de la pratique de villageois bouddhistes. Par exemple, ils récitent des prières de manière continue, et comme l'invocation du Bouddha Amida, qu'on peut réciter centaines et centaines de fois, c'est quelque chose d'assez classique. Et ils sont convaincus que leurs prières aident servent un petit peu de rite funéraire pour leurs ancêtres aussi, donc de les faire monter vers le paradis progressivement, ce qui peut, il y a des analogies très simples à faire dans le bouddhisme, notamment dans le bouddhisme funéraire de l'époque d'Edo. Après, il y a la conscience, ou le regard que ces gens portent et sur leur religion et sur les autres écoles bouddhiques. Et là, ce que l'on en sait, mais c'est ceux qui veulent bien en parler, c'est que le regard est assez exclusif, en fait. C'est qu'ils pratiquent officiellement comme des bouddhistes, ils confient leur mort au clergé bouddhique, mais ils font des pratiques d'annulation, par exemple. C'est-à-dire que dans certains, on a gardé certains, par exemple, pour la mort d'un proche, à Ikitsuki, c'est au nord de Nagasaki, enfin de la région de Nagasaki, on sait qu'il pratiquait le Kyokeshi, donc l'effacement de sutra. Donc au moment où le moine faisait donc les premiers rites, les chrétiens cachés se réunissaient et ils faisaient des prières chrétiennes pour effacer le rite qui était fait au même moment par le moine.
Il y avait un remplacement qui se faisait, enfin pour eux il y avait un remplacement qui se faisait à ce moment-là. Je veux dire là, donc il y a une. Alors, je ne sais pas, à l'époque, on enterrait encore les gens
les gens étaient enterrés essentiellement.
Donc,
c'est 80%.
Il y avait donc un cadavre, corps qui était. Actuellement, on incinère ce qui reste sont les cendres. Mais donc, il y avait un cadavre qui était dans la tombe. Ouais. Cette sépulture, elle change de nature. Pour eux, elle change de nature quand ils font cette annulation. Est-ce qu'elle devient une sépulture chrétienne ou est-ce que...
Elle est, quand le moine vient, donc il y a tout un jeu sur les couleurs, etc., donc du vêtement, le linceul. Mais on le sait dans certaines enquêtes, on sait que les chrétiens cachés mettaient des objets chrétiens au moment où le moine disparaissait. Mais on a très peu de détails.
D'accord.
On a vraiment très très peu de détails, sinon c'est des détails postérieurs. Soit donc par les enquêtes qui porte aussi sur le catholicisme dans la deuxième moitié du XIXe siècle, soit sur les premiers travaux ethnographiques qui ont été faits dans les années 1920-1930.
D'accord. Donc ça, pour moi, ça soulève à la limite deux points. Il y en a... j'ai cru comprendre donc, donc on en a déjà parlé, l'au-delà était important. Le rapport aux ancêtres aussi est extrêmement important et c'est lié à, donc, apparemment à leur... Enfin, ça construit une vie en communauté extrêmement fermée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fermeture de la communauté et peut-être aussi en rapport avec juste avant le début de l'ère Meiji, donc le fait que le christianisme peut à nouveau être pratiqué relativement normalement, je crois.
Pas au tout début, mais quelques années après.
En tout cas, ils auraient pu sortir finalement de cette clandestinité relative. Mais finalement, j'ai eu l'impression que pas tant que ça. Ils restent quand même cachés. Donc finalement, ce rapport à une pratique, le fait d'être caché devienne une part intégrante de la pratique aussi, je trouve ça assez intéressant.
Ah oui, la question est plusieurs facettes.
C'est surtout, c'est principalement l'idée d'une communauté, je ne sais pas si refermé est le terme le plus adapté, mais en tout cas, qui fonctionne vraiment sur elle-même, et qui, même une fois qu'elle a la possibilité de s'ouvrir, peut-être, ne saisit pas cette chance. Cette chance, je ne sais pas si une chance, le terme n'est pas adapté, mais cette possibilité, Et finalement, c'est en lien avec la pratique elle-même, en fait. D'être caché.
Et ça, c'est justement, tu poses une bonne question, parce que c'est une des facettes qui est, en général, la moins bien comprise dans ces populations crypto-chrétiennes. C'est qu'au départ, bien sûr, au XVIIe siècle, une des raisons... ou la raison donc du début de la clandestinité, c'est la répression. Donc les gens se cachent pour ne pas... pour plusieurs raisons, pas simplement... Ce n'est pas forcément un choix facile, d'ailleurs. Le choix du secret, ce n'est pas ça, un choix rationnel, uniquement. Pour ne pas être arrêté et, dans certains cas, mis à mort. Par contre, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le secret commence à changer de fonction. La fonction du secret n'est plus uniquement d'éviter la répression, d'ailleurs les autorités font tout pour éviter la répression, on commence à penser dans ces communautés que le strict respect du secret a aussi, est aussi méritoire dans l'obtention de bienfaits en ce monde et dans le monde à venir, c'est-à-dire le salut. Donc, ce qui se passe, tu as abordé un petit peu la question, c'est que le Japon s'ouvre de nouveau dans les années, à la fin des années 1850 et signe des traités avec plusieurs puissances occidentales, et tout, donc en 1858, à partir de 1858, et tous ces traités incluent une clause portant sur la liberté de culte pour les Occidentaux. Donc, qui dit liberté de culte, dit missionnaire. Donc, à partir de 1860, des missionnaires, donc pas simplement catholiques, d'ailleurs protestants et orthodoxes, viennent au Japon et commencent à construire des temples ou des églises pour les ressortissants étrangers. Alors, pas dans l'ensemble du pays, dans les ports qui sont ouverts, notamment Nagasaki. Et à ce moment-là, peut-être parler maintenant de la découverte. En mars 1865, l'église de Nagasaki, la première donc depuis le XVIIe siècle, est inaugurée, enfin en février. Et en mars, le 17 mars 1865, des populations crypto-chrétiennes viennent se révéler à ces missionnaires. Ce qui se passe, c'est que si certains sont convaincus du lien entre les missionnaires et la religion de leurs ancêtres, ce qui est important, c'est un élément fondamental pour ces populations. Mmh. D'autres estiment que les missionnaires ne pratiquent pas la même religion que leurs ancêtres. Mmh. Et une des raisons qui leur fait penser que le catholicisme n'est pas la religion de leurs ancêtres est la pratique ouverte de la religion. Voilà, donc le secret étant considéré comme une facette essentielle.
Est-ce que dans ces cas donc de religion qui rentrent en clandestinité, est-ce qu'une fois que la possibilité leur est donnée sortir, est-ce qu'on retrouve aussi le fait qu'ils décident de dire non, mais en fait, être caché, le fait d'être extrêmement... ne pas en parler, de le garder pour soi et même de ne jamais avouer, au contraire, est-ce qui va faire que je vais atteindre le paradis plus facilement?
Oui, c'est justement à l'inverse, avant que les missionnaires arrivent, parce qu'il y a une sorte de choc missionnaire qui va leur faire avoir une sorte de retour sur eux-mêmes et de réinterpréter leur propre religion. Mais avant le retour des missionnaires, justement, à l'inverse, dans les enquêtes, ils ont l'air d'expliquer qu'il ne faut absolument pas révéler sa religion. C'est l'inverse. C'est un peu un traître qui révèle sa religion. Il faut faire tout à l'opposé. Pour revenir sur les amis clandestins à Kagoshima, on a la même question. Il y en a qui vont refuser aussi de revenir au Jodo Shinshu orthodoxe, si je puis dire, parce que notamment, ils veulent garder le secret.
D'accord.
Voilà. À proximité de Kirishima, il y a une population qui refuse le Jodo Shinshu. Non, le terme de retour est assez... Moi, je m'en sers un petit peu de retour et je prends avec beaucoup de guillemets parce que ça fait deux siècles que vous n'avez pas vu de missionnaire. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup.
Est-ce que c'est effectivement la même religion?
C'est ça, justement. C'est un nouveau catholicisme, d'ailleurs, qui arrive. Ce n'est pas les mêmes missionnaires. C'est deux siècles plus tard dans une église qui est complètement différente. Et ces populations... Alors, ils ont toujours l'impression, eux, de revenir, par contre, de revenir à une pratique qui est plus juste de la religion, de les convertir.
Bah donc, nous sommes maintenant au retour des missionnaires. Le retour des missionnaires. Et donc, peut-être que tu pourrais nous en dire plus sur, qui sont ces missionnaires, pas la terminologie, à quel corps de missionnaires ils appartiennent.
On dit société dans ce cas-là, ici.
Je crois que à Paris, notamment, c'est pas mal d'importance. Et, quels sont peut-être leurs liens avec Rome, ainsi de suite.
Alors les missionnaires, donc au XVIIe siècle, il y avait plusieurs ordres, hein. Mais au XIXe siècle, par contre, le Japon avait été confié, alors jusqu'au début du XXe siècle, l'évangélisation du Japon avait été confiée de manière exclusive à la Société des Missions Étrangères de Paris. Un point assez important, c'est que ces missionnaires ont déjà, pour la plupart, ont déjà été curés, prêtres, dans des villages ou dans des petites villes. Donc c'est déjà des gens qui ont une expérience du catholicisme villageois, avant de partir. Donc au début, ils vont arriver, les premiers arrivent ils servent un peu d'interprètes au départ pour les délégations diplomatiques. Ils vont s'installer au Japon à partir du début des années 1860, et ils n'ont absolument aucun converti, puisque en plus le catholicisme est encore interdit, le christianisme au sens général était encore interdit. Et cette découverte, ou cette rencontre du 17 mars 1865 va tout changer, en fait, du point de vue de leur logistique et de leur façon de procéder. Parce qu'ils vont porter tous leurs efforts à partir de mars 1865 sur ces populations crypto-chrétiennes. Donc essayer de faire revenir, entre guillemets, ces crypto-chrétiens au catholicisme orthodoxe.
Donc, 19e siècle, on parle plutôt des missions de Paris. Évidemment, il y a la figure de... Alors là, je reviens complètement en arrière. Avant, il y a la figure de François-Xavier. Donc, c'était plutôt des missions espagnoles au tout début, en fait.
Ouais.
Donc c'est passé donc, des missions portugaises ou espagnoles à des missions françaises entre-temps.
Mais du point de vue des chrétiens cachés, ça, c'est un élément qui n'apparaît jamais.
C'est-à-dire
que, ils n'ont aucune... ils utilisent des mots portugais dans leur pratique religieuse, mais ils n'ont absolument pas conscience que ce sont des mots portugais. Ils ont peut-être l'impression que ce sont des mots étrangers, même si c'est certain, enfin, que c'est des mots qui viennent d'ailleurs, en tout cas. Mais ils les lient uniquement à la figure des ancêtres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les missionnaires français, qui reprennent contact avec ces populations, vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas les évangéliser sans tenir compte de ce vocabulaire luso-latin, donc latino-portugais. Et ils vont donc se servir de... Une des premières demandes qu'ils vont faire à la procure, c'est des dictionnaires de portugais. Français-portugais, pour pouvoir rédiger dans cette langue hybride, donc les premiers catéchismes, les premières instructions pour les néophytes.
Donc c'est intéressant, donc, ce que ça amène, évidemment, avec ça, c'est on pourrait imaginer le missionnaire qui arrive et qui dit mais là en fait
un petit peu mais pas surtout
un petit peu d'autorité mais là ce que on peut entendre dans ce que tu viens de dire c'est qu'il y a une tentative en tout cas à s'adapter à ces populations. Donc de quelle manière est-ce que ça se... J'ai lu notamment qu'il y avait d'énormes problèmes de consanguinité au sein de ces populations et que par conséquent les mariages étaient problématiques.
Les missionnaires, en fait, ils ont une sorte... ils s'adaptent et ils ne s'adaptent pas. Il y a une sorte de double jeu. Alors, ils s'adaptent sur le vocabulaire, parce qu'ils estiment que c'est un problème, en fait, mineur. Il faut qu'ils comprennent les mots qu'ils emploient, mais qu'ils disent « baoshizumo », donc c'est ce qu'ils disent en luso japonais.
Ils essayent de passer au français petit à petit
Ils gardent le portugais, toujours. Et au bout d'un moment, ils vont passer essentiellement vers le japonais. Donc ils disent « baoshizumo »,« paraiso », ou « senrei » ou « tengoku », bon, c'est pas une question qui... Ça leur pose pas trop de problèmes, en fait, aux missionnaires. Par contre, il y a un certain nombre de pratiques qui les gênent. Alors, il y a cette question des mariages, mais qui est un peu insoluble. Donc, ils vont finir par valider tous les mariages.
Avec l'accord de Rome ou de leur propre accord ?
En fait, souvent Rome, on leur envoie des problèmes et ils finissent par dire « c'est vous qui savez mieux que nous ». C'est-à-dire qu'ils sont loin, ils sont à 10 000 km. Et si vous leur dites du jour au lendemain qu'il faut changer tous les mariages... Vous avez 20 000 convertis.
Sachant que quand on envoie une question à l'époque à Rome, ça prend un certain temps pour arriver.
Non, là, ça arrive relativement vite au 19e siècle. Le problème, c'est que la réponse peut mettre un certain temps à arriver.
D'accord.
Mais ce n'est pas une question de transport, de moyens de communication. C'est plus une question à ce moment-là de la propagande affidée, qui est donc j'ai oublié le terme en français, qui est en quelque sorte sur des ministères, pas des affaires étrangères, mais qui règle les questions qui ont les problèmes de mœurs, de casuistique.
La propagation de la foi.
Voilà, c'est la congrégation pour la propagation de la foi, qui a changé de nom aujourd'hui, qui est un nom beaucoup plus politiquement correct. Mais un certain temps à répondre, et souvent ils bottent un petit peu en touche parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour répondre aux questions des missionnaires. Mais alors, ce que font faire les missionnaires, ce qui peut paraître extrêmement étrange vu d'aujourd'hui, c'est que d'un côté, bon, ils adoptent les termes portugais, mais d'un autre côté, par exemple, ils ne peuvent pas. Alors, en général, c'est le prêtre qui donne le baptême, par exemple. Mais dans le cas du Japon et dans le cas de beaucoup de terres de mission, le nombre de missionnaires n'est pas suffisant et il y a un grand éparpillement. Un grand morcellement des communautés. Donc, des chefs de communauté sont habilités à donner eux-mêmes le baptême. Et pour ce baptême, alors ils ont deux choix, soit faire la formule rester la formule en latin, soit dans la langue vernaculaire, au cas du Japon, donc le japonais. Les chrétiens cachés, donc en période de grande sénilité, faisaient le choix essentiellement du latin. Ils estimaient que le latin, sûrement, avait plus de vertu, comme étant une langue qui n'était pas comprise, que le japonais. Je rappelle, c'est que j'ai une religion très rituelle, qui porte... Donc les missionnaires, donc c'est un point qui est important, vont constater que les chrétiens cachés soit prononcent mal le latin, ça fait beaucoup rire, mais c'est vrai. Soit ne sont pas, ne suivent pas exactement la manière donc de procéder, c'est-à-dire que il faut au moment donc de l'invocation, de la formule, il faut faire le geste du baptême. Et souvent il n'y a pas donc simultanéité entre les deux. Moi, je trouve que c'est assez drôle, mais ça remplit des rapports à Rome, hein, donc où ils notent la prononciation du latin de ces populations. Et demande à Rome si ces formules sont valides ou pas valides. Et dans certains cas, ils ont jugé qu'elles étaient non valides. Et ils ont demandé à des gens qui avaient été formés, donc des laïcs, de retourner dans leur village pour rebaptiser l'ensemble de la population. Il y a des cas comme ça qui ont été faits. Donc les missionnaires, ils ont été flexibles, mais pas dans tous les cas. Il y a des cas où ils étaient assez inflexibles.
Au point de faire rebaptiser, parce qu'on pourrait se dire qu'une reformation allait jusqu'au fait de dire « bon, bah, vous rebaptisez tout le monde
ouais. ».
D'accord.
Et c'est assez. Moi, j'ai écrit dans mon livre, dans ma thèse, une vingtaine de pages sur la question, et ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est extrêmement révélateur de mode de pensée. C'est-à-dire que le ritualisme n'est pas quelque chose qui concerne uniquement les chrétiens cachés, mais ça concerne aussi les missionnaires. C'est qu'on a souvent tendance à faire une sorte de distinction entre religion savante et religion populaire, et ça n'a aucun sens, en fait. On se rend compte que les missionnaires ont autant... et ce n'est pas pour une question d'être strict ou d'établir son autorité. Il s'agit véritablement, et les missionnaires l'écrivent noir sur blanc, il s'agit pour ces gens de les rebaptiser pour leur donner la possibilité d'aller au paradis. Et donc, implicitement, ça veut dire que ceux qui ont mal été baptisés...
C'est très important, quoi.
Et ceux qui ont été mal baptisés, un des missionnaires le dit souvent, le qui va devenir l'évêque, le vicaire apostolique, dit que ces gens qui ont été mal baptisés sont certainement en enfer.
Qui l'a annoncé aux familles.
C'est ça. Tout ça pour un problème de latin. C'est malheureux.
Rapidement, on parle donc des missions. On a parlé des sources du côté japonais.
Oui.
J'imagine que tu as utilisé des sources donc des missions
oui.
Donc à Paris,
oui.
Les missions de Paris et à Rome. Ça a été un travail compliqué ?
Non. Je le disais tout à l'heure pour la période de clandestinité, mais alors pour la deuxième moitié du XIXe siècle, après ce retour des missionnaires, là, on a un foisonnement de sources qui est absolument merveilleux, parce qu'on apprend énormément de choses sur les villages. Généralement, on n'a pas autant de sources sur d'autres villages normaux, si je puis dire.
Même pour les études japonaises.
Même sur les études japonaises, sur les villages bouddhistes des environs, on n'a pas un dixième de ce qu'on a sur ces villages catholiques. Et donc, du point de vue des missionnaires, alors, ce qui est merveilleux avec les missions de Paris, c'est qu'ils ont une écriture, moi, je trouve, beaucoup moins formatée que celle des jésuites. Donc, déjà, ils envoient beaucoup plus de lettres. Les moyens de transport sont beaucoup plus développés en 1870 qu'en 1610. À l'époque, en 1610, quand vous envoyez une lettre, elle arrive en 1612. Donc, ça met 2 ans. La réponse. Hein, bref, il faut savoir
s'inscrire dans le temps long, clairement.
Voilà. Alors que là, quelques mois plus tard, ils ont la réponse et ils ont lié le télégraphe, etc. Ça va assez vite. S'il faut vraiment donner des instructions rapidement, les informations arrivent assez vite au Japon. Donc on a beaucoup plus de lettres, on a énormément de lettres individuelles. Les missionnaires donc font des rapports annuels qui ont un intérêt moindre, mais quand même qui a son intérêt. Ils notent leurs cahiers, leurs journaux. Ils en font des copies. Et dans certains cas, on a même certains journaux qui ont été conservés. Ils écrivent pas simplement à la société à Paris, ils écrivent aussi à leur famille. Et on a quelques lettres qui sont conservées déjà, qui ont été renvoyées ensuite qui ont été copiées et qui ont été redonnées à la société des missions de Paris. Donc c'est déjà du côté des missionnaires. Et on a après tous ces rapports qu'ils font à Rome aussi pour ces questions notamment de morale chrétienne ou de ces questions rituelles. Donc, du point de vue français, les sources qu'on a sont extrêmement nombreuses. Pour donner simplement un seul exemple de sources que l'on a pour le XIXe siècle, que moi je trouve qui est assez fascinant, on a par exemple, c'est une lettre qui date de 1883, d'un missionnaire qui est à Imamura, c'est à proximité de Fukuoka, donc toujours à Kyushu. Il y a un village isolé de chrétiens cachés qui s'est converti au catholicisme, et il décrit sur 5 ou 6 pages l'élection du maire du village. Donc on a vraiment où ils expliquent comment les maires font, les candidats font pour obtenir des voix. Donc ils font des bons repas, qui permettent de faire un, d'obtenir le soutien donc de leurs villageois pour obtenir des voix. Donc voilà, on a des détails de ce type-là qui sont absolument qu'on ne peut pas trouver ailleurs, en fait.
Ouais.
Et juste sur cette question des sources, ou peut-être que tu vas me poser une question dans ce sens, c'est qu'on a les documents français, mais aussi on a une profusion de documents japonais. C'est-à-dire que le christianisme est encore interdit au moment où les missionnaires reviennent, et ces populations qui vont faire le choix de revenir, entre guillemets, au catholicisme, vont être la cible de la répression.
Qui va... Parce qu'il y a aussi, mais il y a aussi une répression dès le début de l'ère Meiji.
Voilà, qui continue jusqu'en 1873, et même jusqu'aux années 1880, et encore un certain nombre de mesures prises à l'encontre du christianisme, pas simplement du catholicisme d'ailleurs.
Là encore, un pouvoir qui essaye d'asseoir sa légitimité.
Sur une nouvelle forme de Shinto purifié, ce qui va donner naissance plus tard au Shinto d'État. Et les catholiques vont servir un petit peu d'exemple, enfin, de contre-exemple. Ils vont être 3400 catholiques d'Ulakami, vont être envoyés en exil pour être édifiés et revenir donc, au Shinto, alors qui n'est pas vraiment défini, qu'il n'a jamais été d'ailleurs, et qu'il ne sera sûrement jamais, et donc d'abandonner officiellement le catholicisme. Beaucoup vont refuser, hein, d'ailleurs, la majorité, et même ceux qui vont accepter vont revenir sur leur décision par la suite. Et donc on a, du point de vue des sources japonaises, une profusion de documents. C'est impossible d'en venir à bout. Hein. On a des rapports de chefs de village, des rapports des autorités de Nagasaki, on a des minutes, des interrogatoires. On a les instructions qui sont données par ces officiers qui doivent faire apostasier les catholiques. Et on a aussi des documents produits par ces catholiques. Voilà, ce qui change de la période précédente, où on a très peu de choses. Là, on commence à avoir des documents, des pétitions notamment.
Des pétitions, ouais. Des nikki peut-être, enfin des journaux
personnels. Non, pas de journaux, malheureusement. Mais on a des pétitions. On a des copies des textes de religion, de doctrine qu'envoient les missionnaires. Et les pétitions sont extrêmement intéressantes parce qu'on se rend compte que pour eux, la religion est quelque chose d'éminemment collectif. Il ne s'agit pas d'obtenir la liberté de culte. Hein. C'est souvent une bêtise qu'on peut lire.
En même temps, ils l'ont toujours prise pour eux. En un sens, en étant cachés, ils ont continué à pratiquer leur culte.
Oui, et aussi, ils l'ont pratiqué. Ça n'existe pas un chrétien caché isolé. Un chrétien caché, il existe comme une religion du monde prémoderne. Il existe que dans son contact avec l'autre et avec la communauté locale. Les gens ne pratiquent pas pendant deux siècles et demi, ils ne donnent pas à leurs enfants leur religion sans qu'il y ait un contact avec d'autres personnes aux alentours, enfin, je pense en tout cas. Et ces populations qui vont se reconvertir, entre guillemets, toujours, écrivent des pétitions pour ne pas être la cible justement de la répression, qu'on leur laisse faire le choix du catholicisme. Et dans ces textes, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune volonté d'obtenir la liberté de conscience, des choses comme ça. Il s'agit d'obtenir un droit pour une communauté.
Il n'y a pas de mouvement politique particulier lié à ça, quoi. C'est
Non, après, par la suite, il y a beaucoup de chrétiens qui vont... Pas de ces catholiques en question, mais qui vont rentrer un peu en politique. Mais non, il n'y a pas de... Les demandes ne portent jamais sur l'ensemble du pays ou sur d'autres communautés.
C'est
encore
vraiment
moins,
sur sa communauté
ça
à soi. On demande à vivre tranquillement.
Ils demandent à pratiquer leur religion sans qu'on les mette en prison.
On n'a pas eu le temps d'en parler, mais pour ceux que ça intéresserait, je pense que tu dois en parler dans ton livre et dans ta thèse, pour ceux qui veulent les notes de bas de page. les objets aussi sont aussi tout à fait importants. Tu parles notamment donc du foulement du ebumi,
oui.
Foulement des figures de la Vierge, et ainsi de suite.
Christ,
oui. Il y a aussi pas mal d'objets qui sont... dont la destination est modifiée, qui deviennent des objets de culte, alors qu'en fait, ce sont des objets qui pourraient passer pour autre chose.
Ils ont gardé un certain nombre d'objets, qui sont des objets qu'on peut qualifier d'orthodoxes, dans toute la période de clandestinité, mais ce n'est pas les plus nombreux. En fait, souvent, ils ont utilisé des objets bouddhiques qu'ils ont réinterprétés, alors consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, on n'est pas vraiment sûr, de manière chrétienne. Notamment ce Bouddhisattva Kannon, qui était vénérée comme étant la Vierge.
C'est une figure féminine du bouddhisme.
Qui à l'origine était un homme, mais qui est devenu en passant en Chine après une femme, et va être considérée comme étant Marie par les populations crypto-chrétiennes. Les missionnaires qui vont revenir vont faire un peu le tri dans ces icônes, dans ces images, et va redistribuer. Alors là, on est vraiment dans une début de la production de masse tous ces objets donc catholiques, va redistribuer des objets qui sont fabriqués en France, notamment des belles statues de la Vierge en plâtre, vont être redistribués dans ces populations. Donc il y a une forme d'orthodoxisation, donc des objets aussi qui va continuer.
Actuellement, il y a encore des chrétiens cachés.
Alors, ils n'aiment pas beaucoup qu'on fasse des recensions, mais quelques centaines.
Continuent encore aujourd'hui à pratiquer.
Voilà, mais bon, avec le développement des campagnes, ils sont beaucoup moins nombreux que par le passé. Et en fait, c'est ça. Les gens, donc il y a une urbanisation, comme on sait partout dans le monde, en particulier au Japon, au XXe siècle. Et toutes ces communautés qui tenaient par la pratique collective, avec l'urbanisation, sont complètement délitées. Mmh. Et maintenant, ces populations qui habitaient dans les îles au large de Nagasaki habitent soit à Nagasaki, soit à Fukuoka, et ont arrêté, en fait, naturellement, la pratique du crypto-christianisme. Donc il n'en reste plus que des populations très âgées.
Pour passer dans une pratique normale, ou il y a même une disparition de la pratique
Alors le catholicisme l'a emporté progressivement. Quand même, le catholicisme a été extrêmement... a eu le vent en poupe au début, hein, parce que dès la fin du XIXe siècle, on pense que plus des deux tiers des chrétiens cachés étaient déjà convertis. Donc il y avait quand même un impact missionnaire sur le début qui a été extrêmement fort. Mais par la suite, donc, ces populations, ça dépend des régions en fait. Les régions où il y avait déjà des communautés catholiques assez fortes ont fini par rejoindre progressivement, mais pas toujours, hein, le catholicisme par les mariages, etc. Dans les îles où le catholicisme n'avait pas bien marché, parce qu'il y a des îles où les crypto-chrétiens ont refusé en bloc le catholicisme, souvent ces populations sont retournées à un bouddhisme. Enfin, ils étaient toujours bouddhistes officiellement d'ailleurs, mais ont arrêté le crypto-christianisme et continué à être des paroissiens normaux de temples. Voilà.
Nous avons donc abordé la question sur toutes ces chrétiens cachés, mais dans ton travail durant ta thèse et donc dans ce livre que tu publies, traite principalement donc de ces chrétiens cachés dans leur histoire sociale, la manière dont ils vivaient une fois qu'ils sont devenus cachés d'une certaine manière. Mais une fois ta thèse terminée, tu t'es intéressé à d'autres sujets, toujours en lien avec ces chrétiens, et notamment donc à d'une certaine manière l'immédiat après l'interdiction, la manière dont a été vécue cette interdiction, ces apostasies, et notamment donc la révolte de Shimabara. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
J'essaye de faire un petit peu la même chose ce que j'ai fait pour le 19e siècle, de le faire pour le 17e siècle, c'est-à-dire de faire une histoire sociale du fait religieux au niveau local pour le 17e. La seule chose étant que, la seule différence étant que les sources dont on dispose, leur nature est extrêmement différente. Donc je mène actuellement un travail pour essayer de voir comment justement traiter ces sources pour pouvoir dire des choses sur les villages. Et c'est beaucoup moins simple que pour le 19e siècle. Mais quand même.
Donc là les sources sont de quelle nature?
Alors, on a... pour l'instant, je travaille sur les années 1620-1630, essentiellement, et on a des sources missionnaires. Donc les rapports annuels, les lettres individuelles et les rapports régionaux. On n'en a pas non plus des milliers. Hein. On en a un certain nombre, mais on n'en a pas... On en a... on a... ensuite, des arrestations qui ont donné lieu à une documentation du point de vue des autorités. Donc c'est les deux types de sources dont on dispose. Et on peut aussi ajouter l'archéologie qui commence aujourd'hui à être prise en compte et qui montre un petit peu comment s'inscrivait la religion au niveau vraiment local.
Juste quand tu dis archéologie, c'est quoi? C'est sépulture
ou... Sépulture, oui. Essentiellement sépulture. Mais par exemple, dans le cas, on va en parler de la révolte de Shimabara, on a une bonne idée maintenant en fait, de l'organisation même du fort au moment de la révolte.
D'accord.
Et qui donne certaines indications sur le haut degré d'organisation. Et dans certaines villes, on a aussi retrouvé les traces d'églises, etc. Ensuite, Donc ça, c'est les deux types de sources. Et après, il y a cet épisode qui est encore aujourd'hui dans les manuels, dans les livres d'histoire, donc, ou dans les manuels, ou même dans certains livres qui vont un peu plus loin que certains manuels, est assez mal comprise à mon sens. C'est la révolte de Shimabara. Shimabara Amakusa, pour être plus précis, c'est deux régions, donc à proximité de Nagasaki, qui sont le théâtre d'une insurrection villageoise, on peut dire, de plus d'environ 40 000 personnes.
C'était considéré comme quoi, un ikki ou
Ça, c'est souvent le terme de ikki, en fait. À l'époque, c'est ikki le terme qui apparaît. Mais il faut faire attention au vocabulaire parce que le mot ikki a énormément de sens. Par exemple, pour le Moyen-Âge, ça peut porter sur une révolte armée. Ce sont des affrontements violents entre différents groupes de population. Il faut faire attention parce que ikki, ce n'est pas simplement des paysans. Au Moyen-Âge, ça peut être aussi des guerriers, ça peut être des moines. Bref, c'est une coalition, hein, simplement. C'est une ligue jurée, si on veut. Et à l'époque d'Edo, ça renvoie plus spécifiquement aux révoltes paysannes pour des demandes de baisse d'impôts. Ou de baisse d'impôts, ou corvée, ce que tu veux. Mais dans le cas de la révolte de Shimabara, on est plus proche d'un modèle médiéval. C'est-à-dire que d'affrontements déjà armés, parce que la plupart des révoltes villageoises de l'époque d'Edo, il n'y avait pas de mort en général. C'était une sorte de manifestation. Si Et donc à Shimabara, jusqu'aux années 80, les historiens japonais estimaient que c'était une révolte essentiellement économique, sociale, qui avait pour objet donc de qui était une réponse aux taxes trop élevées donc du daimyo, notamment Shimabara. Amakusa, ça allait un petit peu mieux visiblement. Cependant, depuis maintenant les années 80-90, on a découvert un nombre de sources extrêmement important. Ces sources sont maintenant assez accessibles parce qu'elles ont été transcrites et publiées dans des collections. Et on se rend compte, en fait, en lisant soit les témoignages des guerriers, les premiers qui sont battus contre ces paysans, ou en lisant les pétitions ou les règlements intérieurs, on a quelques règlements aussi, de ces paysans, en fait, la question économique n'apparaît jamais. Et la question... Alors, il y a trois éléments qui sont importants. C'est d'abord l'idée que Dieu envoie des messages par l'intermédiaire de miracles donc à ces populations, que Dieu a choisi quelqu'un pour incarner en quelque sorte sa volonté, donc c'est le fameux Amakusa Shirō, et que la seule chose qui les intéresse véritablement, c'est d'obtenir l'abolition de l'interdiction du christianisme.
Alors pour tout le Japon ou en...
pour tout le Japon, là on est dans le cas d'une. Ils parlent souvent du Japon d'ailleurs.
D'accord.
Le mot Japon apparaît très souvent dans leur. Dans leurs documents, et ça vient du fait que ces populations qui ont vécu la répression depuis plus de 20 ans, il y a eu des grands mouvements de population, en fait. Parce que la mise en place de la répression n'a pas été synchrone, donc des gens ont bougé, en fait, sont déplacés pour éviter les contrôles des fiefs, parce que le pays n'est pas unifié à l'époque. Donc ils ont une très forte conscience, en fait, de l'impact national de la politique shogunale. Et en particulier ces chefs qui ne sont pas des simples paysans, qui sont en général des lōnin et qui ont, même s'ils n'écrivent pas à un très haut niveau, ils sont capables de lire dans une certaine mesure et d'écrire notamment.
Lōnin, rapidement, sont
des guerriers sans maître,
voilà.
Qui sont très nombreux au XVIIe siècle.
Alors peut-être que tu peux nous en dire plus sur cette... Amakusa Shirō, même si c'est peut-être pas la part la plus importante,
non,
la plus intéressante.
Non, parce qu'on ne sait pas vraiment qui c'était.
D'accord.
Parce que c'est une sorte de chef religieux qui...
Il a existé, pour le coup
Oui, alors il y a des gens qui disent qu'il n'a pas existé. Je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui a été prétendu, enfin, qui pensait être Amakusa Shirō, a été décapité. Sa tête a été placée à Nagasaki, devant... le comptoir portugais. Donc, officiellement, quelqu'un qui était Amakusa Shirō a bien existé. Mais certains historiens disent aujourd'hui que c'était une sorte de leader fantoche qui était un peu manipulé par les chefs de la révolte et qu'il était déguisé, maquillé. On ne savait pas vraiment qui il était. Il apparaissait très peu, en fait, auprès des révoltés. Il était essentiellement dans une sorte de temple, église, au sein du fort. Bon, bref. Donc, on ne sait pas grand-chose sur lui. Ce que je voulais dire par rapport à cette révolte, et moi, ce qui m'intéresse dans la révolte, bien sûr, la, les combats, la stratégie militaire utilisée par... C'est tout à fait passionnant. Mais moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que ces gens ont laissé des sources, en fait. Et c'est la première fois, c'est une des seules fois pour le XVIIe siècle qu'on a des gens qui écrivent sur leur religion sans passer soit par le filtre des autorités shogunales ou seigneuriales, soit par le filtre des missionnaires.
Moi, c'était pas nécessairement les sont pas nécessairement non plus les combats qui
non, mais je disais c'est intéressant, mais moi ce qui m'intéresse dans cette révolte, c'est c'est vraiment ce qu'on a des témoignages qui sont c'est la voix vraiment à l'état brut
en termes de description de la pratique. À la limite, moi, une autre question qui m'intéresserait, donc sans parler de la stratégie, tu dis qu'il y avait aussi des guerriers, donc des militaires, au sein de cette une coalition, on pourrait dire.
Oui, c'est un village. Hein. C'est au niveau villageois qui se...
Donc, comment finalement est-ce que ça s'est structuré? Il y avait vraiment, donc, en termes de hiérarchie, il y avait ces guerriers qui étaient devenus des chefs de village eux-mêmes ou,
Oui, qui étaient... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque d'Edo, on dit souvent qu'il y a cette séparation des paysans avec les guerriers qui vont vivre progressivement dans les villes. Mais ce n'est pas un phénomène général ou qui est universel au XVIIe siècle. Et à Shimabara, en fait, à cette époque, on est encore en pleine transition. Je n'entrerai pas dans l'histoire locale qui est assez complexe. On est en pleine transition, mais il y a beaucoup de samouraïs. Certains ont perdu, d'ailleurs. Bon, la plupart, ceux qui sont dans la révolte, ont perdu leur statut de samouraï. Ils sont souvent des chefs de village. Ils sont aussi extrêmement importants, et ça explique la forte structuration du mouvement. Ce sont des chefs de confrérie. Donc catholiques, qui sont donc des structures pyramidales, souvent, comme je le disais en début d'émission. Et c'est cette structure qui va permettre, en fait, à la révolte d'être très rapidement, en fait, effective.
Et très bien structurée, en fait.
Et très, très bien structurée. On a les descriptions du château, en fait, qui est occupé par ces...
Quel est le château?
Le château de Hara, c'est au sud de la péninsule de Shimabara.
D'accord.
Au début, c'est un mouvement mobile, hein, ils vont finir par se retrancher dans ce château, justement, parce qu'au moment de l'arrivée, enfin un peu avant l'arrivée des troupes shogunales, en voyant qu'ils ont essayé d'occuper d'autres châteaux, ils n'ont pas réussi. Ils ont battu les troupes locales à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas réussi à prendre les places fortes. C'est la seule place forte qui a été libérée, en quelque sorte, à l'époque, ils l'ont investi. Et on voit qu'il y a une très forte structuration. Et aussi, l'archéologie, là, nous montre les restes donc, du camp, montrent qu'il y avait une discipline extrêmement forte.
D'accord. Voilà. La société entière est mise à contribution. Les
femmes
villages,
et enfants,
sont...
Participation à 100% dans les villages. Alors, en général, d'ailleurs, il y a eu des conflits au début entre certains et des comptes et ils ont été menacés régulièrement. Il y a eu des cas de fuite de paysans qui se considéraient comme n'étant pas chrétiens et qui sont réfugiés auprès des autorités seigneuriales. Mais globalement, en fait, à quelques exceptions près, les villages qui ont participé, d'après les sources, sont à 100% mobilisés.
D'accord.
D'après les sources, après...
Et donc, j'imagine que tu continues quand même à t'intéresser à Shimabara et ainsi de suite, mais tu as des projets pour le futur, et notamment, je crois, la question du traitement des sources. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Parce que justement, en parlant je sais la comparaison avec le 19e siècle, on est beaucoup moins, on a beaucoup moins de sources pour le 17e siècle, notamment sur les sociétés locales, sur les villages. Donc maintenant, tout mon travail consiste à prendre ces quelques faisceaux d'informations et d'essayer de voir comment on peut les lire. Alors, donc il y a la révolte de Shimabara. Par exemple, c'est un cas particulier parce que c'est une révolte. Donc, ce n'est pas vraiment le quotidien. Donc, on ne peut pas non plus généraliser par rapport à ces 6 mois de conflit qui vont terminer d'ailleurs en massacre généralisé pour les catholiques. Et même dans les autres cas, en fait, la lecture doit être extrêmement... il faut procéder de manière assez précise et il faut savoir un peu lire entre les lignes, parce que même les rapports aussi missionnaires, dont on a quand même un certain nombre, sur Shimabara ou sur Omura, mais on se rend compte, quand on lit un rapport, c'est qu'il ressemble beaucoup au rapport précédent et il va ressembler beaucoup au rapport suivant. Il donne un peu l'impression d'une sorte d'histoire immobile. Notamment les rapports portent beaucoup sur la question de la répression. Sauf que la répression, même si elle est violente, faut pas nier le caractère, ce caractère répressif, simplement des martyrs, ce qui est évident.
Il y a eu combien de morts en tout cas à Shimabara ?
À Shimabara, alors là, Shimabara, c'est bon, ces gens qui sont battus, donc ils sont pas considérés vraiment comme des martyrs du point de vue de l'Église. Au moins 35 000 morts. À peu près 30 000 morts environ. D'accord. Ils étaient environ 40 000 au début. Ils ont tous été massacrés à la fin, mais il y en a qui ont fui au milieu, donc on dit environ 30 000. D'ailleurs, on retrouve les squelettes maintenant. Les archéologues ont mis à jour toutes ces sépultures.
D'accord.
Enfin, sépultures collectives. Donc, pour revenir à ces sources missionnaires, on a un certain nombre. Et elles suivent en fait des modèles qu'on peut rapprocher celui des vies de saints, notamment des vies de martyrs. Donc c'est pour ça qu'elles se ressemblent énormément. Donc souvent quand vous avez un rapport sur la répression, vous avez une sorte de petite introduction qui explique le contexte, mais qui parfois n'est pas extrêmement détaillée, qui semble suivre un modèle littéraire. Et après vous avez des zooms en fait sur des individus qui sont morts pour la foi entre guillemets. Et retrouver l'individu derrière le discours du missionnaire est une tâche assez ardue, mais pas impossible, à mon sens, parce qu'on a plusieurs versions de ces textes. On a des lettres individuelles qui sont un petit peu moins formatées. Et ici et là, vous pouvez avoir des informations qui semblent sortir un petit peu du schéma, et qui d'ailleurs sont coupées quand elles arrivent à Rome, souvent, ces informations. On peut le voir dans les rapports qui sont publiés, parce que les rapports sont republiés par la suite, sont réécrits, etc.
J'imagine que pour que ce travail soit intéressant, il faut qu'il y ait un corpus sur lequel l'appliquer. Il y aura environ combien de ces lettres ?
Il y en a un certain. Bon, il y a des rapports annuels, donc on a quasiment jusqu'aux années 1630, on a quasiment un rapport par an, qui sont des rapports assez importants, hein, qui peut faire 100 pages, 150 pages, mais là qui porte sur tout le Japon. Après, on a les missionnaires écrivent. Alors, ils écrivent pas tous les missionnaires. Ils écrivent pas tous le même volume. Ça dépend de leur fonction dans la compagnie de Jésus. Là, on parle essentiellement de jésuites. C'est impossible de tout traiter, en fait. Il y a trop de documents. Donc, d'accord. Moi, je me focalise sur certains documents et certaines années. Par exemple, actuellement, je travaille sur l'année 1626, où on a un rapport de 150 pages sur Shimabara, qui est assez formaté, mais qui laisse poindre ici et là des informations qui semblent ne pas suivre le modèle littéraire fixé. Et on a aussi des lettres pour cette année, un certain nombre de lettres par plusieurs missionnaires, donc ce qui est relativement rare. Donc, on peut comparer ce rapport avec des lettres individuelles. Et on a au miracle aussi un document japonais qui parle de la répression cette année, alors qui est beaucoup plus fragmentaire, mais qui quand même existe. Donc on peut faire un certain nombre de... On peut comparer les noms entre ces différents.
C'est un document de l'administration shogunale ou...
C'est un document... Alors, c'est un document... Non, du fief.
Du fief, d'accord.
C'est une sorte de mémorandum sur la répression, qui ne porte pas que sur ta... qui porte sur toute la répression, en fait, mais d'accord. Qui est assez long pour l'année 1627, qui est l'année la plus sanglante pour les catholiques, à ce moment-là.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Martin.
Merci, Grégoire.
Pour cet entretien tout à fait fascinant sur les chrétiens cachés et finalement la vie locale aussi, en un sens, à Kyushu. Donc, je disais, tu publies un ouvrage. J'engage nos auditeurs à aller le trouver en librairie ou en bibliothèque. Et tu es aussi en charge du centre de Kyoto, de l'école française d'Extrême-Orient. Pour les gens qui écouteraient du Japon, il y a une activité en ce moment à l'école ?
Non, on a des cycles de conférences en anglais et en japonais. On a deux ou trois conférences par mois et on publie aussi une revue. On publie une revue des Quais d'Extrême-Asie qui porte essentiellement sur les religions de l'Asie orientale.
Donc voilà, j'engage ceux qui seraient à Kyoto ou dans le coin de se rendre au centre.
Et de voir les activités.
Exactement. Ou alors de consulter la revue. Donc je remercie encore Martin Noguera-Ramos, qui nous a fait le plaisir d'être présent avec nous aujourd'hui. Je souhaite également remercier Thierry Jikin, qui a été donc l'ingénieur son pendant l'enregistrement. Au revoir.